Tata boom! Bonjour, bonjour et bienvenue dans la 60e édition de Tata Poum. Tata Poum, une émission où on écoute et où on débat autour de l'actualité plus ou moins fraîche, du punk, du rock, du garage et autres musiques bruyantes. Ce soir, les oreilles de la critique rock décoloniale promèneront leur spleen de Melbourne à Bristol, en passant par la rivière Saint-Louis à La Réunion, et pour atterrir finalement à Oakland, en Californie, puisque ce soir on parle de Delivery, de Ditz, de Monoï et de Fake Fruit. Pour ne pas être d'accord, on retrouvera ce soir autour des micros Guillaume, Mathieu, Cédric, Arnaud, Héloïse, ainsi que Marion et Bibi. On commence par un premier album, Delivery, dont Mathieu nous a sélectionné le premier extrait, Like a Million Bucks. Voilà, ça c'était un premier extrait de Delivery qui sort un album qui s'appelle Force Majeure, et c'est Mathieu qui nous en parle.
Oui, alors il s'agit du deuxième album du groupe de Melbourne après Forever Giving Handshakes, qui avait été chroniqué dans Tata Poum 39 en février 2023. À l'époque, cet album avait réussi à faire l'unanimité autour de la table, sauf pour moi, parce que j'avais eu une première écoute qui est plutôt enthousiasmante, et puis finalement j'avais émis de gros bémols aux écoutes suivantes. Pour ce deuxième album, sans présumer de ce que vont dire mes collègues, je demeure encore une fois un brin perplexe. Parce que l'album, il démarre bien, l'espace de 5 titres qui sont très énergiques et qui s'avèrent bien garage, avec un petit mélange de punk. Mais par la suite, les choses se gâtent dès The New Alphabet, et à partir de ce morceau-là, on ne sait pas trop où le quintet veut nous emmener. Alors je dis quintette, mais en fait il s'agit bien du duo Rebecca James qui mène le jeu, hein, puisque de toute façon les trois autres membres du groupe l'ont quitté après l'enregistrement. Donc on se doute que si l'album avait vraiment plu aux musiciens, ils auraient voulu le défendre sur scène après sa sortie. Là c'est pas le cas, donc on peut avoir des doutes sur leur implication. Voilà, ce qu'il faut dire quand même, c'est que à partir de The New Alphabet, le niveau est quand même bien plus faible qu'en début. On a des morceaux qui sont comme Focusrite ou le très électro What Else, qui sont vraiment d'une faiblesse indigne. Et on a même des envolées de guitare héros sur Put Your Back Into It qui sont ridicules. Et si Exacto remonte le dernier, donc Exacto c'est le dernier titre, il remonte le niveau un petit peu, histoire de terminer avec un moral un peu plus relevé, ça fait pas un bon album complet. Et je dois dire que c'est un groupe que j'ai vu au Supersonic en juillet 2024 et sa prestation en concert m'avait plutôt rabiboché avec, puisque c'était moins insupportable que l'album complet. Donc évidemment, comme je suis un petit peu maso, je vais retourner les voir dans quelques jours et on verra si la version live est meilleure que la version studio.
Ouais, tu l'as dit, on avait chroniqué dans une précédente émission, la 39, leur précédent album. Et en fait, moi, ce que j'en garde comme souvenir, c'était que on avait bien aimé, mais malgré ou peut-être grâce à ses limites. Voilà, c'était frais, c'était enthousiasmant. On louait même leur fraîcheur. Ils se bagarraient avec ce qu'ils avaient comme arme. Mais maintenant, on est près de 2 ans plus tard, que sont-ils devenus ? Ils ont vachement progressé musicalement. Les guitares sont plus assurées, la section rythmique assure désormais sans hésitation son rôle, c'est plus carré, plus efficace, j'allais dire c'est plus adulte. Seulement voilà, on a perdu au passage ce qui faisait le sel du groupe, ces hésitations, ces limites techniques qui les obligeaient à prendre d'autres chemins, cette audace teintée d'arrogance qui les amenait à péter plus haut que leur crête et qui les rendait presque touchants. Meilleurs musiciens, ils proposent des compositions moins aventureuses, moins décalées, comme si le savoir les avait rendus moins courageux, moins inventifs. Ça reste sérieux, un bon groupe. Mais quand on joue en Australie, dans le championnat de référence du punk rock, comment dire ? Si tu joues au rugby en Nouvelle-Zélande, on attend que toi que tu joues un peu mieux que si tu joues dans le championnat roumain. Du coup, Delivery, pour moi, ils vont rejoindre une horde de groupes australiens sympas, qui jouent bien, mais au final, pas ouf. Cédric ?
Bah alors, je rejoins un peu ce que vous avez dit, mais pas complètement. Alors moi aussi, j'avais beaucoup aimé le précédent album et j'avais été voir le concert avec Mathieu. Alors moi, j'avais été un peu plus mitigé que Mathieu, parce que j'avais trouvé ça un peu brouillon, parce qu'ils essaient en gros de donner la place à tout le monde, ce qui est tout à fait louable. Mais du coup, ça devient un peu brouillon et mal cadré dans l'harmonie entre les différents icos, quoi, en gros. Et donc là, maintenant, j'apprends en plus qu'ils se sont séparés. Donc finalement, l'égalité, ça mène à rien, quoi. Une bonne vieille hiérarchie. Et on tient un bon groupe comme ça. Et oui, tu l'as dit, là, c'est mieux produit, c'est mieux construit. Ça met bien en évidence les instruments, parfois un peu au détriment de la voix. Et donc, du coup, on perd un peu l'énergie directe. Ça renvoie un peu plus à ce que faisait Parquet Courts à ses débuts, hein, ce qui était plutôt bien. Les paroles sont mélancoliques, sans être dépressives. Alors, c'est vrai que sur les premiers titres, on retrouve tout ce qui plaisait, quoi. Une sorte d'évidence garage punk, un chouïa de pop dans les voix qui alterne le nasillard teigneux, la romance ou le garage un peu plus sec. Une belle énergie positive et des changements de ton entre les titres. On passe du nerveux operating Atelos à What For, une pop intelligente qui mêle parler chanté, et du glam ou le psyché Focusrite, ou encore le très bridorcien Only a Fool. Et c'est vrai que plus on avance dans l'album, plus les expérimentations surgissent. Moi, je trouve qu'il y en a un peu plus, contrairement à toi Pierre, je trouve qu'il y en a un peu plus que dans le précédent album, que là c'était pas toujours complètement convaincant, notamment le What Else, oui, ça c'est un peu le raté, hein, ça pourrait quasiment plaire à Michel Drucker comme titre. pas génial. On pourrait leur reprocher d'aller bouffer un peu à tous les râteliers, mais moi je boude pas complètement mon plaisir. Moi j'aime quand même bien cet album et je serais content d'aller de retourner avec Mathieu, les revoir sur scène pour essayer de voir ce qu'ils sont devenus, de voir s'ils transforment l'essai, quoi, en gros.
On va se tourner vers notre infirmière, Héloïse.
Je reviens un peu tout ce que vous avez pu dire sur Deliveré. Le premier album du groupe, selon moi, affichait déjà un évident potentiel. Force majeure est la démonstration que le groupe a grandi, tu l'as dit, Pierre. Sauf que moi, je trouve qu'ils ont grandi plutôt vite et plutôt droit. À nouveau, le Quintet nous propose un post-punk garage qui se veut cocher toutes les cases du cahier des charges de la bouillonnante scène punk de Melbourne. Sauf qu'en 3 ans, après avoir enchaîné les concerts, ils ont également affûté leur musique, soigné leur arrangement et diversifié leur influence. En fait, ce disque se compose de 2 parties. Il s'ouvre sur une première phase qui est assez punk rock, très énergique et qui est selon moi ma préférée, à laquelle succède une seconde phase que je qualifierais de post-punk, mais que j'ai trouvée tout aussi convaincante et qui est parfois même tubesque, comme sur le morceau final Exacto. Il en résulte un disque de très bonne facture qui ne demande qu'à être défendu sur scène.
On s'écoute un deuxième extrait de Delivery avec What For. Et ben voilà, ça c'était un second extrait de l'album de Delivery. Et on écoute tout de suite un autre groupe, c'est Bic. Bic avec leur album dont Arnaud nous a sélectionné un premier extrait, Windmill Hill.
Yeah.
Et ben voilà, c'était donc Bic, et c'est Arnaud qui va nous dire si Bic c'est rasoir.
Ouais, facile, hein. Déjà, tu le prononces mal dans l'intro. Bon, sinon, un stylo jetable, je sais, vous allez avoir un paquet de vannes à sortir. C'est le quatrième album donc studio de ce trio de Bristol, après un paquet de hippies, de sessions live et de bandes originales notamment. Ils se sont rencontrés en 2009 autour de Jeff Barrow, c'est le producteur et le... Enfin, ouais, c'était, alors je sais pas, ça dépend s'ils vont ressortir un album, mais le producteur et le batteur de Portishead. Et on retrouve Bill Fuller à la basse, qui a collaboré avec Massive Attack notamment, alors uniquement sur les lives, hein, pas dans la production et dans l'écriture des morceaux. On comprend assez vite du coup que Bic c'est une distraction pour ces musiciens qui du coup avaient pas au départ vocation à perdurer. Leur premier album était enregistré en live comme tous les autres, et c'était une succession de prises de son qu'ils avaient pu faire sur une année. Avec beaucoup de cohérence et du krautrock qu'on entend assez bien ici, des boucles de clavier, pas mal de psyché. Et puis bah en fait le temps passe et ils en ont sorti un deuxième, un troisième et donc le dernier, le numéro 4, parce qu'il est difficile en effet de nommer les albums, c'est alors j'ai cherché, c'est des chevrons je crois le terme, c'est le supérieur ou l'inférieur, ça dépend, c'est une mathématique. Et voilà comment ils nomment leurs albums. D'ailleurs, c'était aussi la pochette de quasiment tous leurs premiers, en tout cas des deux premiers. Ils ont choisi une pochette un peu différente ici, donc vous allez aussi pouvoir vous acharner sur la pochette parce qu'en effet, elle est pas forcément très belle. On y voit le chien de Jeff Barrow, Alfie, qui désintègre avec des rayons laser les trois membres du groupe. Ils ont sorti l'album sur Bandcamp sans aucune communication du jour au lendemain. Donc, bon, ils font ça en distraction des autres projets qu'ils peuvent avoir. Ils proposent une musique assez lente. C'est mélange de psyché, expérimental. La rythmique est très importante. Les boucles, les nappes de synthé à la Kraftwerk prennent vraiment une place importante dans les morceaux. On pense à Can. Moi, j'ai aussi pensé à Pink Floyd sur un morceau Hungry Are We. Mais les influences, il y en a pas mal, mais leur son est vraiment très caractéristique. Ça a pas beaucoup bougé depuis 2009. Moi, j'arrive vraiment à reconnaître leurs pattes. C'est à mon avis un album qui va influencer pas mal le groupe. Le son live est assez différent pour le coup, même si là tous leurs albums sont enregistrés en live, mais moi je les ai vus une seule fois et ils montent le tempo. Alors déjà, c'est plus rapide. Et les sons sont beaucoup plus électriques et beaucoup plus bourrins. C'est assez marrant de les voir en prestation parce que c'est pour le coup assez différent. Ils reprennent la même base rythmique, les mêmes mélodies, mais en apportant quelque chose de beaucoup plus bourrin et de plus post-punk sur leurs concerts. Leur discographie est vraiment impeccable. Moi, j'aime les quatre albums. Donc, si on n'aime pas celui-là, bah, c'est même pas la peine d'aller voir les précédents parce que la patte est la même. On ne sait pas ce que va devenir le groupe parce qu'ils ont déjà annoncé la séparation. En tout cas, le départ du batteur, qui est le chanteur aussi, et en grande partie le compositeur du groupe, qui va se consacrer à plein temps à son label Invada, qui héberge le groupe et qui héberge aussi quelques groupes dont on avait parlé, pas forcément chroniqué, je me souviens plus, mais il y a Billy No Mates, Anika ou KVB sur ce label-là. Je ne saurais trop vous conseiller de prendre le temps de l'écouter, et si ça vous a plu, de jeter une oreille attentive sur les précédents. Si, comme moi, vous avez été émerveillé, mais je pense que ça va pas être le cas pour tout le monde.
Ouais, c'est vrai que la pochette avec ce caniche qui envoie des rayons laser avec, c'est certainement ce qu'il y a de plus intéressant dans cet album. Parce que sous des dehors cool, c'est d'un ennui mortel. C'est de la musique d'attente pour standard téléphonique. C'est voilà. Alors j'ai trouvé, c'est de la musique pastèque. C'est comme une pastèque quoi. Extérieurement ça a l'air important, mais dedans il y a que de la flotte. C'est les inventeurs du, je sais pas quoi dire quoi. Bic, c'est les inventeurs du robinet eau tiède. Bon, en même temps c'est le batteur de Portishead dans le groupe, donc ça devait nous mettre la puce à l'oreille sur ce qu'on risquait d'entendre. Et alors moi j'ai été surpris. Je suis surpris de ce que tu dis, mais même dans la presse, les Inrecuptibles, ils disent que un album grandiose mais jamais démonstratif.
C'est bon, alors dire que c'est pas démonstratif, c'est rien de le dire. Des musiques éthérées, jouées avec mollesse, c'est même pas mauvais, ça ne dérange personne. Et c'est peut-être le pire, c'est que c'est bien fait, mais ça ne veut rien dire et ça ne va nulle part. Alors, il y a 9 titres, 51 minutes. Temps ressenti 4h40. Voilà, je me suis vraiment beaucoup ennuyé en écoutant cet album, mais franchement, la pochette de l'album, elle déchire, quoi. Mathieu.
Alors, je suis souvent d'accord avec toi, mais vraiment pas sur la pochette. Elle est vraiment immonde, cette pochette. Enfin, que ce soit un chihuahua, un caniche ou n'importe quel clébard, elle est affreuse. Après, je trouve que tu prends des risques de te référer aux Inrecuptibles comme ça en disant ah, mais les Inrecuptibles aiment bien. Depuis quand est-ce que les Inrecuptibles, ils ont du goût en matière musicale? Non, mais franchement, ils en ont jamais eu, et c'est pas maintenant qu'ils vont commencer. Voilà, c'est cet album de Bic, ça m'a fait reprendre mon contrat pour Tata Poum. Ah ben, vous n'avez pas de contrat, les autres? Vous n'êtes pas payé? C'est con, parce que moi je suis payé et bien, mais pourtant dans mon contrat pour Tata Poum, je n'ai trouvé aucune ligne qui indiquait qu'il y avait une option FIP. Et en fait, j'ai pas trouvé non plus l'option psyché des années 60-70. Alors, je me suis dit, bon, ben, je vais écouter. Et très vite, comme toi, Pierre, je me suis emmerdé à dessous de l'heure dès le premier titre, dont les 5 premières minutes me semblent durer 25, quoi. Donc, toi, t'exagères de parler de 4h40. Moi, j'ai l'impression juste que ça dure 1h30 au lieu de 52 minutes. Alors, en fait, c'est peut-être sympa pour les musiciens, mais pour les auditeurs, c'est un supplice. Et alors là, tu me rassures, en fait, Arnaud, parce que je me disais, j'imagine même pas ce que ça peut donner en concert. Mais si tu dis qu'en concert ils se mettent vraiment à jouer et que il se passe quelque chose, ben pourquoi pas. Non, je vais pas payer pour aller voir les voir en concert, mais s'il y a un extrait qui passe à la télé, on sait jamais.
Cédric.
Oui, bah assez mitigé aussi. Hein. Alors,
ah, nous, on n'est pas mitigé.
Bon, je trouve que le groupe s'enlise dans des schémas répétitifs, offrant une musique trop linéaire et prévisible. Les compositions, bien que techniquement solides, manquent parfois de dynamisme et d'innovation, donnant l'impression d'une redite des albums précédents. Les morceaux s'étirent en longueur monotone, sans apporter de réelles surprises ou variations captivantes. De plus, l'atmosphère générale de l'album peut sembler assez froide et distante. Les tentatives d'expérimentation paraissent quand même parfois forcées, sans réelle cohérence ni direction claire. En fin de compte, ça me laisse sur ma faim. C'est juste une quête de profondeur et d'une originalité qui fait défaut tout au long de l'album. Voilà donc ce qu'écrit ChatGPT quand je lui ai demandé de m'écrire une chronique en 10 lignes sur cet album ennuyeux, parce que je m'étais déjà emmerdé à l'écouter, j'allais pas m'emmerder à écrire quelque chose.
Oh putain. Guillaume,
bah non, bah,
t'as écrit quelque chose?
Oui,
toi-même.
Bah, toujours, toujours avec force et conviction. Et bah, là, je rejoins Arnaud. Moi, j'ai bien aimé ce disque, qui est en fait une nouvelle découverte pour moi de la riche scène de Bristol. Hein, ils sont originaires de là-bas. Et cette fois, on quitte l'habituel post-punk qui a fait émerger quelques groupes de la ville, pour du post-rock tendance grotte, voire psyché, un album en dehors des sentiers battus, effectivement, mais profondément agréable par son ambiance et la qualité musicale produite. On pense inévitablement à la fois à Cannes et au Pink Floyd, cher à Mathieu, bien sûr, mais comme s'y ajoutent aussi des couches électro plus contemporaines, le mariage des styles resplendit encore davantage l'ensemble du disque. Ce n'est pas surprenant, en tout cas, qu'avec de telles références, les morceaux sont assez longs, en fait, oui, de fait, entre 5 et 8 minutes pour la plupart. C'est qu'il s'agit de poser une ambiance et de laisser aller les enchaînements de façon chill, comme on dit, même si parfois des accélérations se produisent. Et le climat général méditatif convient pour se laisser absorber, pour savourer ce qui doit être des lentes montées progressive et répétitive qui caractérise beaucoup des titres. Le côté rock planant n'est jamais très loin, mais la qualité mélodique et la belle instrumentation ne laissent jamais douter sur la valeur générale de haut niveau qu'atteint cette formation. Pour moi, c'est une très belle découverte, je ne connaissais pas et je me suis laissé séduire sans problème.
Eh bien, que dire si ce n'est qu'on va en écouter un dernier extrait de Bic avec Denim. Allez, tout le monde se réveille. On continue l'émission Tatapoum puisqu'on va maintenant écouter Monoï avec leur album Sea, Sex and Oi. Et c'est Héloïse qui nous a sélectionné un premier extrait, Enfant de la Creuse.
Et ben voilà, ça c'était un premier extrait de Monoeil avec les enfants de la Creuse, et c'est Héloïse qui nous en parle.
Alors sur Monoeil, je ne saurais malheureusement vous dire peu de choses, si ce n'est qu'il s'agit d'un groupe de Oi de La Réunion, composé de deux guitaristes dont l'un est au chant et fan du Red Star, le célèbre club de foot populaire de Saint-Ouen, d'une bassiste, d'un batteur et d'un saxophoniste sur certains morceaux, et qui viennent de sortir leur premier album, Monoeil. Et que l'auditeur ne se laisse pas duper, ni par ce délicieux emprunt à la célèbre huile de bronzage, ni par l'artwork du disque, laissant entrevoir une vaillée aux allures de Skinhead, il s'agit bien d'un disque de Oi qui épouse tous les classiques du genre. Des musiciens et musiciennes chauves et tatoués, vêtus de polo Fred Perry, de chemise Ben Sherman, de vêtements Lonsdale, fans de football et de bière, bien dessinés dès à représenter fièrement les valeurs de la classe ouvrière, dans un punk mélodique et militant en un sens. Monoeil, c'est un peu le pendant réunionnais d'Or Control, ce célèbre groupe de Oi originaire de Monceau-les-Mines qui chante les mineurs, les corons et les misères de la classe ouvrière. Sauf qu'ici, il est question de combat de coq et des enfants de la Creuse, ces enfants réunionnais déportés entre 62 et 84 par l'État français dans les départements dépeuplés de métropole. Le disque aborde également les thématiques emblématiques de la culture skinhead, à savoir le football, l'amitié, la baston et la picole. Il en résulte un petit brûlot mélodique, tout autant énervé que soigné, qui fonctionne selon moi à merveille, où l'aspect bourru des paroles et velu des musiciens est atténué par un véritable sens de la mélodie et une ligne instrumentale ciselée au cordeau. En un mot, c'est brillant.
Voilà, mais tout à fait, Héloïse. Bon, Guillaume ?
Bah, je sais que je suis attendu. Hein. J'imagine que Pierre, lorsqu'il programme ce genre de groupe, a dans un coin de sa tête l'idée que ça ne manquera pas de susciter une diatribe de ma part, et forcément, bah, je ne peux m'en empêcher. Car il faut dire que Monoeil y met du sien. C'est une musique tellement grotesque qu'elle en est drôle, mais je pourrais aussi soutenir l'inverse. C'est tellement caricatural qu'elle en est exemplaire. Dans leur genre, un genre dont, au passage, j'ignore à peu près tout, et dont, par conséquent, la pertinence de mon propos le concernant est à peu près nulle, dans leur genre, dis-je, je leur trouve de la cohérence. C'est totalement affreux à mes oreilles, et pour autant, il n'y a rien de choquant dans l'exécution de ce punk oi, balourd, avec son chant guttural. J'y retrouve l'habituel lamentable style de guitariste qui m'horripile tant, et qui est si caractéristique de la façon de jouer des groupes punk français. Je trouve évidemment ça sans intérêt, mais parce que c'est de la musique qui ne me touche absolument pas, donc qu'importe, c'est dit.
Cédric.
Oui, bah donc, dès le début, on est plongé directement dans le cœur du sujet, hein, parce que la première phrase, c'est « Au fond de la classe ouvrière, tu vas au charbon comme à la guerre ». Donc là, on voit tout de suite qu'on est dans l'atmosphère des compiles KO en France du début des années 80, notamment avec cette reprise des trotskistes aménagés, donc pas de cagnard dans mon bar. Alors, puisqu'ils aiment le foot, on va faire le match de foot. Donc, c'est un groupe de La Réunion, 1-0. Un groupe qui rend gloire à la classe ouvrière, 2-0. C'est de la Oi classique, mais de temps en temps un peu de sortie de piste plus rock'n'roll ou avec du sax sur le dernier rempart qui donne parfois à certains titres des allures des neurones en folie. 3 €, on va dire. Et puis le retour des vestiaires, ça se gâte un peu. Hein. Dictionnaire de rime à tout va, 3-1. Aucune autodérision, 3-2. Un anglais quand même assez lamentable sur le titre.
Ouais, est-ce que c'est grave, ça,
Pierre? Je crois que tu as trouvé ton maître, 3-3. Et puis le dernier viriliste, quand même, cette chanson qui s'appelle Bière, baston, football et amitié. Voilà, 315. Hein. Fin du match. Donc on est quand même bien en 2025, les gars, et on en est quand même encore là, quoi. C'est quand même parfois tellement caricatural. Je prends le titre Comme des frères, qui raconte quand même une histoire vraiment triste, une amitié perdue suite à la plongée dans la drogue d'un ami qui meurt dans un squat, mais ça en devient presque comique, là. Donc, je cite, hein, je copiais sur toi une histoire. Bon, déjà, c'est un peu rigolo comme phrase. Cette jeunesse était la nôtre, les concerts punk et les bagarres. Bon, on dirait un peu les petites annonces d'Elysée Moon, vous voyez, la bagarre, un truc comme ça, quoi. Alors, j'ai essayé aussi ChatGPT pour voir ce que ça donnait, parce qu'eux, ils n'ont aucune chronique nulle part. Donc, ils s'appuient sur le titre de l'album et ils inventent, quoi. Donc, ils offrent une bande-son originale et décalée pour les vacances où la révolte se fait avec un sourire en coin et les pieds dans le sable. Et il invente deux titres, deux morceaux. Le premier, c'est Pastis et Pareo. Et le deuxième, c'est Riff sur le récif. Je pense qu'on pourrait leur suggérer pour le deuxième album.
Arnaud.
Oi. Je sais pas quoi dire. Je sais pas si, après ce que t'as dit, Cédric, si on les recevra sur. Enfin, si vous les recevrez à Constroy. Il doit quand même avoir les oreilles qui saignent. Moi, j'en saignais absolument pendant toute l'écoute. C'est une calamité. Je sais pas quoi rajouter parce que peut-être les rimes. Moi, j'ai mis déjà longtemps à savoir qu'ils étaient. Réunionnais, et donc j'ai pas forcément compris le titre, Monoi, Success Saxon Oi. Heureusement pour eux qui viennent de La Réunion, parce que je me suis amusé à essayer de chercher les rimes en Oi, et en fait il y en a pas tant que ça, j'ai trouvé Bolshoi, je me suis dit tiens, s'ils avaient été russes, peut-être que ça aurait été drôle. Non, c'est absolument lamentable. Le titre dont tu parlais, là, Comme des frères, c'est aussi une bande-son à la Renault avec un harmonica qui est inaudible. La rythmique est absolument identique sur tous les titres. Souvent, on parle de rythmiques différentes, de jeux de batterie intéressants, d'une ligne de basse intéressante. Là, c'est linéaire sur tous les titres. Et en effet, les deux morceaux où ils parlent anglais sont terribles. C'est pas celui-là qu'on passe juste après, mais déjà, faut entendre qu'ils parlent anglais parce que Pierre, je pense que tu pourrais mieux parler que ça. Je sais pas quoi dire, c'est une vraie calamité. J'en dis pas plus.
Monoi, donc ils viennent de Saint-Louis de la Réunion. Bon bah, je pense que c'est à eux, c'est la quasi-totalité de la scène Oi de la Réunion. Donc ils vivent un peu en autarcie. Cédric a cité les premières paroles de Enfant de la classe ouvrière. Tu vas au charbon comme à la guerre. La liberté a un goût amer. 8 heures par jour, payer une misère. Bon voilà, on y retrouve nos repères quoi. On est chez les révoltés, les antifas, les décolonies. Et cette fois-ci, ils viennent de La Réunion. Alors, La Réunion, c'est un truc passionnant musicalement. C'est foisonnant. Il existe encore aujourd'hui une scène très vivante, en particulier une scène autour de la Maloya, qui reste très active. La Maloya, c'est le pendant du Sega de l'île Maurice voisine. C'est comparable au blues des Noirs états-uniens ou au rebetiko du nord de la Grèce, des musiques mélancoliques portant d'une colère, celle des opprimés, des exclus, des victimes du racisme. La Maloya, c'est une musique directement issue de l'esclavage, qu'en est le droit héritier. Et je vous conseillerais vivement d'écouter un groupe comme Basse-Terre, qui fait des brûlots. Et puis en plus, c'est très très beau. Où il y a Kerveli aussi, ces deux groupes récents qui sont en pleine activité, qui continuent à faire vivre cette musique. Mais bon.
On parle tous de Monoi.
On parlait de Monoi, puisqu'on parle de c'est de la Oi réunionnaise. Alors c'est pas d'une folle originalité, hein, le chanteur porte des Doc Martens, un t-shirt du Red Star, l'a dit Héloïse, un tatouage d'araignée sur le bras. Il chante la joie de boire de la bière et de reboire des bières et de boire des bières encore avec des potes. Ah oui, faut dire aussi que c'est un produit d'importation à La Réunion. C'est pas une création endogène. Hein. Charlou, le leader, il vient de la banlieue parisienne et il est parti à La Réunion avec sa meuf qui joue de la basse dans le groupe il y a 20 ans. Et donc ils ont importé dans leur valise cette musique-là. Bon, mais moi je trouve que c'est pas totalement sans lien avec la Maloya parce que au sens où ça parle de la Réunion, de son histoire, de ses plaies, enfin, de la Creuse, ça se mixe aussi avec la tradition des chambourins et virilistes de la Oi. Mais il y a une sorte de créolisation dans cette Oi bête et bourrine et d'une identité insulaire faite d'oppression et d'une langue métissée dont ils s'emparent même dans un titre puisqu'ils font le premier titre, à mon avis, le premier titre de Oi. En créole. Écoutez, je vous propose qu'on écoute un second extrait.
C'est capillotracté quand même.
Je vous propose qu'on écoute un second extrait de Monoi, le premier et unique groupe de Oi réunionnaise, Sortir du rang.
We'll be right back.
Et ben voilà, ça c'était Monoeil avec Sortir du rang, et puis on va passer au dernier groupe de cette émission, Fake Fruit, et c'est Guillaume qui nous a sélectionné un premier extrait, See It That Way. Fake Fruit, et c'est Guillaume qui nous en parle.
Ouais, si Cédric a besoin de ChatGPT pour chroniquer, pour obtenir un texte de ses chroniques, moi j'ai tout simplement besoin de reprendre tout simplement les miennes, puisque c'est le côté pratique d'avoir déjà abordé la sortie d'un disque d'un groupe comme Fake Fruit, c'est que je peux reprendre ce que j'en avais déjà dit pour... La première fois, lorsque son premier album avait été chroniqué dans Ptatapoum, numéro 11. Donc, plus besoin, en fait, de vous raconter, de rechercher leur historique. Je vous renvoie à l'émission déjà citée. Sachez juste qu'ils sont californiens, qu'ils continuent de pratiquer ce que j'ai appelé du lo-fi énervé. Et qu'ils sortent chez ce second album chez le label de Washington DC, Carpac Records. La musique de Fake Fruit incarne bien le son actuel lorsqu'il s'écarte du garage, en fait. C'est un peu ça le résumé, le ressenti que j'ai de ce groupe, dont l'album se place dans la continuité du précédent, dont je disais qu'il me faisait penser aux Slits pour le côté post-punk dépouillé, aux Talking Head aussi pour leur jeu de guitare, mais aussi au premier Pete Gervais dans la façon dont la voix de la chanteuse D'Amato s'exprime. Mais je pourrais aussi parler de groupes dans la continuité desquels ils sont, comme Pylon ou Wire. On est clément dans ces groupes qui ont rejeté le côté brutal des compositions punk tout en conservant l'âpreté originale. Mais donc jamais lourd, toujours enlevé, étendu. Ce second album est plein de fraîcheur pour moi. Et il demandera peut-être un peu de temps pour s'apprécier, mais c'est véritablement plaisant.
Non, mais moi je suis d'accord avec toi, c'est vraiment une splendeur cet album. Et alors voilà un autre membre, un autre groupe à chanteuse charismatique, parce que la chanteuse en impose vraiment. Moi j'ai l'impression qu'il et elle font de la musique pour nous, quoi, pour nous les chroniqueurs de Tatapoum, quoi. C'est un truc intello, complexe mais pas trop, joyeux, enjoué, des textes qui font tout de même le job, une chanteuse qui déboule et tout, surtout le tout exécuté avec une maestria impeccable. Ce qu'ils font avec leur guitare est assez, enfin c'est très réussi. Ils font des incursions dans des styles très différents et tout. Il y a même un titre où ils organisent un peu une rencontre du rock et du jazz, voire du free jazz, dans Gotta Meet You. c'était assez casse-gueule, comme sur l'album précédent par ailleurs, de venir rajouter du zbeul à une musique qui est déjà un peu du zbeul, mais ça marche carrément bien. Moi, je trouve que ça nous embarque. Ça pourrait presque donner envie de danser, Mathieu. Alors. Tout de même, par rapport à ce que j'ai pu lire sur ce groupe, tout ça, sur la voix de Anna D'Amato, la chanteuse qui est aussi la leaduse, la compositrice du groupe. Moi, je trouve que par rapport à l'ambition du groupe, je trouve que parfois ça manque un peu d'ampleur pour être tout à fait à la hauteur de l'audace et de la maîtrise musicale du groupe. Peut-être que ça manque de puissance à certains moments ou de. En tout cas, on a du mal à imaginer qu'ils ne sont que trois pour faire tout ça. C'est un truc incandescent, riche, vif. Il y a toute cette puissance et en même temps, ça reste dans la nuance à chaque fois. Voilà, une fois de plus, l'artwork est super bien. Et par rapport à ces albums de post punk et tout qu'on critique, là il est plutôt long puisqu'il fait 40 minutes, c'est presque une symphonie pour ce type d'album qui est maîtrisé de bout en bout et qui moi je trouve qu'il y a une vraie marche au-dessus par rapport au précédent, quoi. Arnaud.
Ouais, non, je suis plus réservé, plus mitigé. Ouais, 40 minutes c'est un peu long. On avait plutôt bien aimé l'album précédent, l'émission numéro 11. Je suis pas sûr que autour de la table il y en ait un qui puisse fredonner un titre. C'est un peu ce que j'ai ressenti à l'écoute de l'album. C'est bien fait, ouais. C'est un peu trop intello, c'est énergique. Ça puise comme le précédent, hein, dans les années 90. C'est peut-être un poil plus énervé, la rythmique et la batterie, elle claque un peu plus, je trouve. C'est plus percussif, ça me plaît plutôt bien. Je suis d'accord, l'apport du sax sur le Gotta Meet You est assez intéressant, ça part en free jazz. Il y a quelques titres qui tirent l'album vers le haut. La voix notamment, elle s'étoffe du chanteur du guitariste pardon, qui intervient sur deux titres. C'est plaisant et sur la voix, je suis assez mitigé. Je partage ce que tu dis, Pierre. On avait un peu tous dit, parce que j'ai réécouté l'émission numéro 11, que c'était plutôt la force de l'album. La voix de D'Amato était quand même ça en faisait vraiment quelque chose d'intéressant, ça tirait l'album vers le haut. Là, c'est plus une surprise. Et je trouve qu'il y a quand même quelques limites à cette voix qui, le côté nonchalant qu'on avait souligné revient quand même sur l'album. Les vocalises sont pas forcément très intéressantes. J'attendais autre chose du groupe sur le deuxième album. Je pense que je fais un peu la fine bouche peut-être, mais je suis beaucoup plus mitigé que toi, Pierre, et je suis pas sûr que, comme le premier album, honnêtement, j'en retienne grand chose. J'ai dû le réécouter vite fait pour voir ce que c'était, parce que j'avais totalement oublié cet album qu'on avait chroniqué il y a très longtemps, et je pense que ça sera exactement la même chose pour celui-ci.
Héloïse.
Eh bien moi je suis tout à fait de ton avis, Pierre, c'est un album que j'ai trouvé proprement impeccable. De la description du disque, qui cause avant tout pour nous, t'avais tout à fait raison de le préciser, qui indique résumé à la fois les angoisses de la vie quotidienne, une industrie musicale en plein chaos et l'effondrement du capitalisme à la salve d'Anna D'Amato contre son ex merdique qu'il introduit sur See It That Way, en passant par le solo de sax de Gotta Meet You et le parfum de Shoegaze sur Cause of Death. Pour moi, ce squelette est une grosse claque. 12 morceaux hyper bien ficelés, le long desquels le trio déploie la fusion post-punk garage qui fait sa singularité, laissant la part belle à la voix bluffante d'Anna D'Amato, à des sonorités nerveuses et à des mélodies délicates et aériennes. Un subtil équilibre entre rage et mélodie, au parfum d'exutoire et de revanche. J'ai ainsi pu lire qu'à 18 ans, Anna D'Amato a été auditionnée pour intégrer le Berklee College of Music. Et au milieu de son audition, l'un des juges musiciens s'est approché de son ampli de guitare et a baissé le volume. Démoralisée et insultée, Anna D'Amato a décidé de contourner la prestigieuse institution et de créer son propre groupe, à savoir Fake Foot. Et bien qu'importe l'opinion de ces aigris du Berklee College, ce second album est la criante illustration que cette blessure d'ego était la meilleure chose qui soit arrivée à la musique d'Anna D'Amato et peut-être même au rock'n'roll.
Parfait. Mathieu, même enthousiasme ?
Alors en fait, je voudrais juste revenir sur quelque chose que t'as dit, Pierre, tout à l'heure. T'as dit, cet album, il est, en gros, il est fait pour Tata Poum, il est un télo.
C'est brillant comme analyse, non?
Ouais, alors, tu me rappelles le groupe dont on vient de parler juste avant? voilà. Je vais pas m'étendre plus là-dessus. Voilà. Fake Flute, pour moi, ce sont des Américains qui m'évoquent souvent différents groupes anglais au fil des morceaux, d'Elastica à The Fall. Mais aussi, il y a quelques références américaines. Il y a certains morceaux où j'entends un petit peu du B-52s, par exemple. Honnêtement, ça réinvente rien. Ça peut même sembler écouter, réécouter, voire éculer. Mais moi, ça me convient. Et je dois avouer que s'ils avaient la bonne idée de passer par chez nous, bah, je tenterais bien l'aventure de les voir sur scène.
Carrément. Allez, Fake Fruit, on s'en met un deuxième extrait. Mucho Mistrust, c'est le titre éponyme de l'album.
Approche, Chico, attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, c'était Tata Poum épisode 60 avec ce soir la salade de fruits de la critique rock puisqu'on retrouvait autour des micros Cédric, Héloïse, Mathieu, Arnaud et Guillaume. L'ambiance sonore était assurée par Mara et la réalisation de cette émission par Marion et Bibi. Bon courage pour ce qui vous reste à supporter de dimanche. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.